Vous m'en direz des nouvelles au Festival d'Avignon, en direct du Conservatoire du Grand Avignon, en partenariat avec la SACD. Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Victor Hull.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ce qu'il y a de bien avec le Festival d'Avignon, c'est la diversité, y compris la diversité des histoires que les artistes nous racontent. Prenez par exemple Cookie Muller. Vous ne la connaissez pas encore, mais cette écrivaine, actrice, gogo danseuse et chanteuse était une figure de la contre-culture américaine des années 70-80, une sacrée personnalité incarnée par Éléonore Arnault dans une mise en scène de Justine Henneman. Ça s'appelle Traversée en eau claire d'une piscine patent noir et c'est à découvrir à 22h30 au Théâtre du Train Bleu. Mais pour commencer, Kirill Serebrennikov, le réalisateur et metteur en scène russe en exil, dont la mère est née en Ukraine, avait fait l'événement à Cannes avec Tchaïkovski et c'est Tchekhov qu'il a choisi de mettre en scène dans la cour d'honneur du Palais des Papes, ici à Avignon, avec le Thalia Théâtre de Hambourg, Le Moine Noir, avec une mise en scène spectaculaire en allemand, en russe et en anglais surtitré, est encore à l'affiche jusqu'à demain, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Kirill Serebrennikov.
Ah bonjour, bonjour monsieur.
Le Moine Noir, cette nouvelle de Tchekhov, elle est assez peu connue, en tout cas en France. Pourquoi ce texte vous intéresse-t-il tant ?
C'est
un texte qui m'a toujours bouleversé et il m'intéressait depuis longtemps, qui me paraît être très bien pour mon premier Tchekhov parce que je n'ai jamais monté Tchekhov avant. Parce que ces pièces, les grandes, formidables pièces de Tchekhov, je ne les ai jamais montées en Russie. Parce qu'on les monte trop souvent partout. Et je me disais que le public doit avoir un peu de repos par rapport aux pièces de Tchekhov. Des trois sœurs de ces innombrables jardins et les mouettes. Donc j'ai proposé au festival et à Théâtre Thalia ce texte mystique et énigmatique, pas du tout propre à Tchekhov. Et maintenant tout le monde me pose la question, pourquoi ça, pourquoi vous avez proposé cette nouvelle? Et justement j'avais envie qu'on découvre Tchekhov de tout un autre côté, je veux dire le grand public.
Serebrennikov, quand démarre la pièce, Kovrin est un écrivain reconnu. Il est angoissé, il est triste, il est surmené. Il a besoin de se reposer et c'est pour cela qu'il part à la campagne chez un vieux pépiniériste amoureux des fleurs et de la nature. C'est un vieil homme qu'il connaît bien, qu'il a élevé, dont il finira d'ailleurs par épouser la fille. Et ce vieil homme-là, il est en extase devant la beauté de la nature, la beauté des fleurs, des arbres, devant le soleil aussi. La question du beau, de l'extase du beau, du spectaculaire au sens esthétique du terme, est-ce que c'est une question essentielle quand on monte un spectacle comme le vôtre ?
Le public, à mon avis, contrairement à la radio, justement, c'est quand même, ils regardent le spectacle. Donc pour eux, probablement, c'est très important que non seulement ce soit les belles voix ou la belle musique, mais qu'il y a aussi un visuel très important. Pour moi, le théâtre, c'est toujours le produit de la beauté.
Alors on est happé hein, par effectivement la beauté de la scénographie qui fait vibrer la cour d'honneur, ces ouvriers jardiniers qui évoluent dans trois sortes de cabanes avec un toit, des murs en plastique transparent qui sont successivement les serres de la pépinière, les maisons des estivants qui viennent passer là du bon temps. C'est à Hambourg, hein, Kirill Serebrennikov, que le spectacle a été monté. Est-ce que vous l'avez redimensionné pour la cour d'honneur du Palais des Papes ?
Ce spectacle a beaucoup changé depuis, par rapport à ce qu'on a présenté à Thalia. C'est, disons, cette édition spéciale de ce spectacle pour le Festival d'Avignon. Il n'existe tel quel qu'ici, sur ce plateau, et nulle part ailleurs. Mais bien sûr, les serres, évidemment, on a gardé les serres, les dés de transparence de ces murs. Mais en ce qui concerne les lunes, normalement au théâtre, ils sont accrochés au plafond, ils ne sont pas à côté des acteurs. Et le plateau, là-bas, c'est normalement 10 mètres le cadre et pas 36 comme ici. Ici, on a normalement deux fois moins de chanteurs et de danseurs. Et c'est que pour Avignon que le public a vu cette danse de moines.
Comment avez-vous appréhendé cet espace à la fois mythique et vertigineux qu'est la cour d'honneur ?
C'est justement la question, est-ce que j'ai réussi à l'appréhender, est-ce que j'ai su le gérer, c'est à vous de dire, est-ce que j'ai réussi. Je pense que la cour et ce plateau nous a accueillis quand même, nous a acceptés, parce que le Mistral nous a aidés. Hier, il y avait un peu de cendres, c'était aussi pas mal non plus. Et la fumée qu'on a dans le spectacle, ça a mélangé avec la fumée des feux autour.
Oui, c'est vrai qu'hier soir, hier après-midi, même d'ailleurs aussi sur la ville d'Avignon, il y avait des cendres dues à un gigantesque incendie qui est à quelques kilomètres de là. Et c'est vrai que le vent, le Mistral en l'occurrence, les cendres, la météo, en fait, ce sont des éléments qui sont venus aider à la mise en scène. C'était inespéré.
Oui, en effet, quand je parlais aux comédiens, j'essayais tout le temps de les convaincre que l'élément, ce n'est pas nos ennemis, mais au contraire, c'est nos amis. Il faut tenir compte qu'ils existent, parce que nos spectacles est quand même une structure de jeu très ouverte. Et les comédiens sur scène travaillent beaucoup en régime de performance, c'est-à-dire en prenant en compte tout ce qui se passe autour. Et j'aime beaucoup ce type d'acteurs. Et souvent, bon, j'essaie le plus souvent de travailler avec les acteurs de ce type.
Votre théâtre, Kirill Serebrennikov, c'est un théâtre de performance ?
Dans un certain sens, oui, parce que ce qui m'intéresse, ce qui me passionne toujours, la conception d'être ici et maintenant, parce que je me rends compte que le théâtre, c'est quelque chose qui naît devant les yeux du public et s'évapore en un instant. Bien sûr, c'est une performance vivante, unique, comme un mandala bouddhiste qui peut être préparé, construit pendant longtemps avec beaucoup d'efforts, mais ça s'évapore, ça se dissipe en une seconde, et ça nous rappelle justement la fragilité de l'existence et la fragilité de l'existence humaine. Je pense que c'est ça l'objectif de théâtre, de ne pas l'oublier. Donc la performance dans la conception de l'art contemporain, c'est aussi très, se marie très bien avec ma façon de décrire mon métier.
Alors ces images qui peuvent rester dans la tête des spectateurs, il y a évidemment les photos de Christophe Reynaud-Delage qu'on a reçues dans cette émission il y a deux jours, et puis il y a aussi les images qui nous restent naturellement dans l'esprit, comme ces projections vidéo sur le très haut mur au-dessus du plateau qui donnent tout de suite une dimension très, très spectaculaire au visage de Kovrine et à la folie qu'exprime ce visage. Kovrine voit de plus en plus souvent ce fameux moine noir qui donne donc son titre à la pièce et qui vient le hanter un peu comme un fantôme noir hein, qui prend de plus en plus de place et qui petit à petit va le faire sombrer dans la folie. Qui est-il, ce moine noir, Kirill Serebrennikov?
Moi, je dirais que là, chaque spectateur doit raconter sa version de la réponse à cette question à la fin du spectacle. Dans chaque des quatre nouvelles de notre spectacle, quatre volets, le moine noir est différent. Dans un cas, c'est juste la folie et la maladie. Dans l'autre, je ne sais pas, un sort des voix mystérieuses qui surgissent. Dans l'autre cas encore, c'est un personnage d'une légende qui surgit comme un hologramme, qui se reflète dans l'espace des nuages. Et sinon, c'est un abîme, disons, ou nous-mêmes peut-être. Je n'ai pas envie d'insister sur telle ou telle version, parce que 2000 personnes qui regardent tous les soirs le spectacle, chacun d'eux doit trouver sa réponse.
Alors le spectacle est effectivement découpé en quatre chapitres, avec à chaque fois une focale différente sur le même récit. Hein. C'est le point de vue du moine qui conclut le spectacle. Auparavant, il y a celui du pépiniériste qui s'appelle Pesotsky. Il y a celui de sa fille Tania qui raconte des années après, alors qu'elle a vieilli. Et puis le point de vue de Kovrine qui est incarné à chaque fois par trois acteurs différents. Pourquoi justement cette volonté de découper la nouvelle en multipliant les points de vue?
On peut chercher la réponse chez Tchekhov lui-même, justement dans cette apparition de moine quand il apparaît aux hommes. C'est juste une réflexion, multi-réflexion, multi-reflet d'un objet qui a existé jadis dans l'atmosphère. Pareil, chez nous, ces personnages se démultiplient, qui se reflètent les uns dans les autres. Ils se répètent, mais en même temps changent. Et en même temps, ils jouent un jeu commun. Peut-être cette multiplication des personnages qui arrive à son apogée dans la quatrième partie vient de Tchekhov lui-même.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu un travail de réécriture pour changer la structure complète du spectacle, si quand même.
Vous avez
le livre devant vous et il y a deux textes de Tchekhov et ma pièce. Donc en les voyant à côté, on voit que c'est à partir d'eux que j'ai écrit ma pièce. J'ai changé les personnages et leurs motivations et probablement même le résultat où le personnage principal arrive.
Pourquoi avez-vous décidé de vieillir le personnage de Tania et de la faire regarder en arrière dans le rétroviseur?
Parce que ce qui m'intéressait, que dans cette histoire, dans cette pièce, il y a une notion de temps qui apparaît. Tania peut-être la seule personne qui a survécu à cette histoire. Et je me suis dit, à part le moine, je me suis dit que ça serait intéressant qu'il raconte son histoire, sa version, des années plus tard.
Pourquoi trois acteurs différents et de langues différentes pour incarner Kovrine?
J'avais trois comédiens formidables. Ils sont tous les vedettes. Et je me suis dit, mais qu'ils jouent tous les trois. Voilà, ils jouent tous les trois Kovrine.
Et il fallait qu'ils se ressemblent ou au contraire qu'ils soient complètement différents? Vous les avez tirés dans quel sens?
J'ai envie qu'ils soient différents, bien sûr. Ils parlent des langues différentes aussi. Mais ils sont tous les trois ténors, ce qui est important. Parce que notre spectacle, c'est une structure symphonique. Donc c'est très important que la musicalité, musicalement, ça soit organisé justement comme une structure symphonique. Et les voix des comédiens comptaient beaucoup, ça joue un rôle très important.
Oh, yeah.
Kirill Serebrennikov qui présente jusqu'à ce soir le Moine Noir dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Alors le dernier acte de la pièce, Kirill Serebrennikov, il est très chorégraphié, très spectaculaire aussi, avec ces hommes en noir qui sont autant de moines noirs justement. À ce moment-là, à la fin, à l'ultime partie du spectacle, la chorégraphie prend clairement le pas sur les mots. Est-ce que ça veut dire que les mots étaient impuissants pour exprimer ce que vous aviez envie de dire ?
Le
moine noir est impossible d'écrire avec les mots. Et Tchekhov lui-même, dans son texte, n'arrête pas de décrire différemment le moine noir, tantôt comme un homme, tantôt comme ce tourbillon de poussière, comme un reflet dans l'atmosphère. Tantôt, tout à coup, c'est un noir réel et on ne sait pas s'il est noir parce qu'il s'est sali ou c'est un Syrien. Il y a plein de questions qui se posent. Donc, du coup, ce n'est pas les mots, en fait, il ne s'agit pas de mots, mais ce qui est entre les mots. Et le théâtre a assez de procédés, de moyens, de ce qui est invisible et indicible de l'exprimer. Donc c'est pour ça qu'on a la musique de Jakub Snimanis, musique de chœur, chorégraphie de Kulagin et Stigniev. Et en plus, certaines répliques. C'est un mini-opéra, en fait, à la fin.
La pièce parle de folie, parle aussi de liberté. Le moine noir rappelle Kovrin à pousser librement comme une haute tige plutôt que d'être un simple arbuste résistant. Il l'appelle à se méfier de la normalité, hein, qui consiste, selon lui, à suivre le troupeau. Est-ce qu'un artiste, est-ce qu'un homme de théâtre comme vous doit justement se méfier et même fuir la normalité?
La normalité, c'est quelque chose de très compliqué, en fait. Entre nous, le théâtre, c'est quelque chose d'anormal, en fait. N'importe quelle personne qui travaille au théâtre, ou même quelqu'un qui va au théâtre, il ne signe pas sa normalité. La normalité doit exister dans la vie normale. Et Macbeth ou Hamlet ou Kovrin, les Kovrin, en principe, tout ce qu'on fait, il y a une sorte de saut ou d'exaltation ou de conceptualité ou dans certaines... pour des certaines questions complexes qu'on se pose et au monde. Donc, c'est évidemment, il ne s'agit pas de la normalité au théâtre.
Donc, si je vous traite de fou, vous prenez ça comme un compliment?
Non,
c'est juste pour dire que la folie, c'est aussi une chose compliquée. On peut regarder la folie ou quelque chose qu'on a l'habitude d'appeler folie, pas comme un diagnostic médical, clinique, mais comme quelque chose de cet interstice entre la vie ordinaire et l'abîme. Il y a la vie ordinaire, il y a aussi l'abîme, le vide, où tôt ou tard, tout le monde se retrouve. On peut le traiter de mort ou autrement, mais c'est un instant, une fraction de seconde qui est juste avant l'abîme, mais déjà après la mort. C'est peut-être ça, c'est où Kovrin rencontre le moine, justement.
Mais alors, Kovrin demande à un certain moment dans la pièce, « Pourquoi m'avez-vous fait soigner ? Je perdais la raison, j'ai eu la folie des grandeurs, mais par contre, j'étais joyeux, en forme, et même heureux. » Et un peu plus loin, il dit, « La vie m'ennuie, pourquoi m'avez-vous fait ça ?» Et un petit peu plus loin encore, « Ça vous a dérangé, vous ?» Je vous le demande, ça vous a dérangé ces mots-là, Kirill Serebrennikov. Est-ce que ce ne serait pas une bonne profession de foi pour un artiste ?
Bon, on va pas mélanger les artistes et les personnages. Bien sûr, l'auteur de spectacle se tombe amoureux de ces personnages. il est lié à eux, mais pas vraiment, ils n'est pas, ils sont pas égaux. C'est pas, on peut pas mettre le signe d'égalité entre eux. Tôt ou tard, nous tous, on essaie d'y voir plus clair, où on se sent mieux. Au concert rock, je ne sais pas où, en fumant des joints, ou au bureau ordinaire, travail. Sans doute, ces questions-là, chacun s'est posé au cours de sa vie. Qu'est-ce qui est mieux, mener avoir une famille normale ou de faire du sexe extrême tous les jours? Donc, c'est la question peut-être inquiète un peu tout le monde. Notre personnage, en tant que philosophe, à sa manière, et aussi écrivain, journaliste, donc fait transcender cette problématique-là dans la sphère plutôt de sentiments et philosophiques.
À la fin du spectacle, Kirill Serebrennikov, l'inscription « Stop the War » s'inscrit en lettres rouges sang sur le mur du Palais des Papes. Entre folie créatrice et folie destructrice, est-ce que la frontière n'est pas mince ?
Non. Я допускаю, что на сцене возможно.
Probablement sur scène tout est possible.
Люди на сцене.
Les gens sur scène se tuent. Ils intriguent, font des intrigues, ils se trahissent. Ils étranglent les femmes qu'ils aiment. Ils tuent leur mère. Mais ça se passe sur scène. Après ça, les comédiens se lèvent et vont saluer. Et ça se fait justement comme dans n'importe quel carnaval pour que ça ne passe pas dans la vie réelle. Que le spectateur se débarrasse de toutes ses névroses et qu'il n'ait pas envie de tuer ses proches ou aller incendier une maison en face. Mais quand tout ce qui est, ce qu'on sait, tout ce qui passe d'horrible dans notre vie, c'est des crimes qu'on ne peut pas justifier d'aucune façon.
Pensez-vous qu'un jour cette pièce sera montée en Russie ?
Je pense qu'un jour, probablement dans des années, quelqu'un va monter cette pièce. Mais Tchekhov, c'est un auteur russe. Mais pour l'instant, notre moine noir existe là où il y a liberté.
Et vous, Kirill Serebrennikov, quand retournerez-vous en Russie ?
Quand j'aurai cette possibilité, quand on ne va plus persécuter pour avoir prononcé le mot guerre.
Merci, merci beaucoup Kirill Serebrennikov. Le moine noir dans la cour d'honneur du Palais des Papes, encore ce soir à 22h. Et je précise que le texte est disponible chez Actes Sud dans une traduction en français de Daniel Loïza et Masha Zonina. Masha Zonina qui a d'ailleurs traduit vos propos pour nous et que je remercie également.
Merci. One heart, he thanks and praises the Lord, and now we hear all right as well. Let them know possibly that he be mine. We know there is one question, and we love to ask. We heard, is there a place for the hopeless sinner who has heard of my believe me, one heart, let's get together, be alright. One heart, give thanks and praise to the Lord, I will be alright. I will come
Bonjour.
Le tambourin que l'on entend, c'est le vôtre. La voix et la guitare, ce sont sous celles de Valérian Béarbonnet, votre partenaire, dans cette traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir. Alors c'est un titre qui intrigue et qui doit donner envie de voir cette pièce au Théâtre du Train Bleu, ici à Avignon. C'est tous les soirs, sauf le jeudi, à 22h30. C'est un texte de Cookie Muller, adapté par Justine Henneman, qui vous accompagne aujourd'hui dans ce studio. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous mettez en scène hein, également Justine Hellmann et vous, Éléonore Arnaud, vous êtes Cookie Müller, personnage passionnant, complexe, extraverti, haut en couleur. Et le titre de la pièce, alors je vais le redonner, Traverser en eau claire dans une piscine peinte en noir, est à la base celui d'un livre publié par cette fameuse Cookie Müller, qui elle aussi est tout sauf banale et qui pourtant n'est pas très connue en France. Comment vous l'avez découvert d'ailleurs, Justine Hellmann ?
Alors... J'avoue, c'est complètement par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans un grand moment de blues dans ma vie. Et je suis allée dans une librairie que j'aimais beaucoup. Et le livre était exposé dans le rayon. Et je me suis dit, ah, ce titre, ça me donne envie de le lire.
Ben voilà, c'est un peu comme moi voilà. Avec la pièce.
Oui. Et puis, je l'ai lu dans un avion parce que je suis partie en voyage. Donc, en plus, très approprié quand on, voilà, comme lecture. Et je l'ai lu et je me suis dit, mais c'est incroyable, ce livre est incroyable. Ce serait un spectacle tellement magnifique. Et je me suis dit, mais j'ai tout de suite pensé à Éléonore. Je me suis dit, mais...
Pourquoi ? Parce que c'est terrible, parce que quand on connaît le personnage, on se dit, mais alors dans la vie, ça doit être une secrète Lascar.
Parce qu'alors, après, je remonte quelques années avant, j'avais travaillé avec Éléonore Arnaud sur un spectacle qui s'appelle La discrète amoureuse, pour lequel elle avait été d'ailleurs nommée aux Molières comme révélation. Et j'avais été complètement fascinée par cette jeune femme, par sa personnalité quand même hors du commun, sa générosité. Enfin, et je me disais, mais Éléonore, il faudrait vraiment qu'elle ait un rôle à sa mesure, mais en même temps, elle a une telle personnalité singulière, quel rôle. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est fou, c'est elle. Et donc, j'atterris et je vais sur Internet, je regarde Cookie Müller. Je ne savais pas qui c'était Cookie Müller. Je vois le visage de Cookie Müller et en plus, elle ressemble à Éléonore physiquement. Donc, je me dis, mais c'est pas possible,
signe
c'est incroyable.
Du destin.
Et voilà, tout est parti de là. Et après, j'ai donc creusé et découvert ce personnage complètement incroyable. Et,
donc, écrivaine, voilà. Actrice, go-go danseuse, chanteuse, on pourrait rajouter d'autres qualificatifs. Et c'est vrai, Éléonore Arnaud, que vous avez dans ce spectacle une présence scénique assez incroyable. Alors, c'est une question très difficile, mais j'aime bien la poser aux comédiens ou aux metteurs en scène. Comment ça se construit, une présence scénique ? C'est très mystérieux, ça, pour le public.
Ben moi, j'ai l'impression que ça ne se construit pas.
C'est inné ?
Ouais.
On l'a ou on ne l'a pas ?
Je pense, oui.
Et comment vous vous êtes rendu compte que vous l'aviez, alors, cette présence scénique ?
Ben, quand on ressent fortement un échange au moment présent avec le public, quand il y a quelque chose qui se passe, on le sent, je ne sais pas, c'est là, c'est dans l'air, c'est dans les yeux, c'est dans l'émotion qu'on ressent sur scène, sur le moment, et quand ça se sent, il y a quelque chose qui se passe, c'est un peu indéfinissable.
Ce petit quelque chose, comme diraient les Anglais. Alors quand Justine Hellmann vous a proposé d'incarner justement sur un plateau de théâtre Cookie Müller, est-ce que vous vous êtes senti en confiance avec votre personnage ?
Oui. D'abord, j'ai lu le livre.
Oui, vous aussi. Voilà, pas seulement le titre.
J'ai commencé par le lire parce qu'elle m'a dit « Lis et si ça te plaît, on y va ». Donc j'ai lu et j'ai trouvé ça génial parce que complètement aventureux et plein de choses à faire évidemment. Mais j'ai eu surtout très peur parce que je me suis dit « Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça sur une scène de théâtre ? En quoi est-ce qu'on va pouvoir apporter au lecteur quelque chose de plus ?» en le rendant spectateur d'une pièce de théâtre, alors que le livre permet d'un déploiement de l'imaginaire sans limite.
Oui, parce qu'elle voyage beaucoup, elle se déplace beaucoup, en particulier en autostop, elle fait pas mal de trips, y compris de bad trips d'ailleurs.
Oui, complètement. Et il y a énormément de détails, énormément de décors, et je me suis dit, comment on peut mettre ça sur une scène de théâtre ? Comment il faut faire ? Est-ce qu'il faut faire une énorme scénographie ? Rien du tout. Voilà, en quoi est-ce que ça va être légitime pour nous de faire ça ? Voilà, au début j'ai eu peur et puis ensuite à force de discussions et de rêves ensemble et de réflexions, on a commencé à construire notre road movie.
Alors c'est une figure underground, une figure de la contre-culture américaine. Est-ce que vous diriez, Éléonore Arnaud, que Cookie Müller est une marginale ?
Oui, en tout cas elle a tout fait pour l'être, pour sortir du cadre et pour faire ses choix et décider de la vie qu'elle voulait mener. Donc je pense qu'on essaye tous de tendre vers ça, mais qu'on n'y arrive pas forcément.
Alors elle a croisé beaucoup de grandes figures de l'époque, qu'on croise aussi d'ailleurs dans le spectacle, Janis Joplin, Jimi Hendrix et quelques autres, comme le réalisateur John Waters, auquel dans le spectacle, Valérie Ambert-Bonnet prête aussi sa voix.
Vous n'avez pas idée combien cette fille me manque. Ses talons hauts, ses yeux trop maquillés, et ce talent pour voyager aux quatre coins du monde sans un sou en poche et le sourire aux lèvres, même avec la police à ses trousses. Nous nous sommes rencontrés à Baltimore en 1969 lors de la première mondiale de mon film Mondo Tracho. Ce soir-là, j'ai su que je venais de découvrir une nouvelle star et surtout une amie pour la vie. Pourtant, Dieu sait si Koukri et moi ne nous chamaillons. À propos des drogues, t'es tellement coincée, m'a-t-elle écrit un jour où elle était en colère. À propos des conseils médicaux éminemment discutables qu'elle prodiguait avec l'assurance de quelqu'un qui aurait découvert le remède contre le cancer. À propos de Frank, son chien nourri à la couenne de bacon, il adore ça. Et même à propos de son habitude exaspérante de sniffer du café instantané avant de sortir parce qu'elle n'avait pas le temps de s'en faire couler une tasse comme tout le monde. 25 années durant, elle a été la seule personne de tout mon entourage qui ne s'est jamais coiffée et qui a pourtant réussi à rester, comment dire, renversante. J'ai découvert assez tard que son plus grand talent était son écriture.
Alors son écriture, justement, Justine Henneman, comment est-ce que vous l'avez ressentie? Comment est-ce que vous pourriez nous la décrire, l'écriture de Koukri Müller?
Alors, c'est très imagé. C'est quelqu'un qui arrive à nous transporter vers des images, qui a une très grande force évocatrice. Et ce qui est très beau, je trouve, de la façon dont c'est écrit, c'est que parfois c'est très oral, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dialogues, c'est très parlé, et d'un seul coup, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus poétique. Et je pense que cette alternance-là, c'est ça aussi qui fait que c'est théâtral. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une oralité très franche, à des moments où voilà, il y a des dialogues, elle parle, et puis des passages extrêmement poétiques, extrêmement délicats, très bien écrits. Et c'est ça aussi qui m'a fait dire, c'est vraiment théâtral, parce qu'il y a une vraie langue.
Et c'est vrai que ce jeu de contraste-là, on le sent effectivement dans le spectacle. On sent en particulier l'ironie, le second degré, le mépris des contingences, le mépris du troupeau aussi, hein, qui transparaissent dans le personnage que vous jouez, Éléonore Arnoult, à travers les regards que vous lancez au public ou à votre partenaire, à travers vos sourires, vos mous, bref, toute la gymnastique du visage et de la bouche, à travers les gestes de la main aussi, à travers le jeu de jambes aussi, assez impressionnant, je dois dire. En fait, ce second degré-là, il passe par les mots, mais il passe peut-être encore plus par le corps. Est-ce que c'est par le corps que vous êtes d'abord entré dans le personnage de Koukri Müller?
Non. Non, c'est venu ensuite. Je pense qu'on se ressemble. Je pense qu'elle ressemble à beaucoup d'autres femmes. Je pense pas être une exception. Je pense que c'est dans son ambivalence qu'on se ressemble, dans sa faille et pourtant son explosion de joie et de soleil permanente, dans son côté trash et en même temps très poétique. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans l'écriture, dans son écriture et dans sa vie, quoi. C'est qu'il lui arrivait énormément d'horreurs et d'emmerdes, et pourtant elle a toujours pris les choses avec sourire, et elle a toujours décidé d'aller de l'avant et d'en tirer le drôle et le rocambolesque.
Oui, elle a l'air très forte, en tout cas extérieurement parlant.
Ouais, et je pense que du coup c'est par ça que moi je me suis sentie proche d'elle, et ensuite je pense que je lui ai prêté mon corps. Je suis pas du tout sûre qu'elle ait le même corps que moi, qu'elle avait le même corps que moi, mais en tout cas
mais faire sentir le texte à travers les gestes, à travers les regards, à travers cette complicité, parce que frappant, on parlait de présence scénique tout à l'heure, mais ce qui est frappant, c'est que vous entretenez vraiment une relation permanente avec le public. Il n'y a pas de quatrième mur,
on ne dit pas du tout.
Ouais, il n'y en a jamais, d'ailleurs. D'un bout à l'autre de la pièce, il est absent.
Oui, tout à fait. Bah, parce que c'est comme ça qu'elle a écrit, quoi. Elle embarque les gens dans un voyage, dans un road trip, et il fallait absolument qu'on les embarque, les gens. Et surtout que les gens, justement, en France, ne la connaissent pas, ou peu. Donc il fallait tout de suite leur prendre la main et leur expliquer, les aider à partir en road trip avec nous.
Et pour les aider à partir, il y a aussi les costumes. Alors moi, je voudrais qu'on dise un petit mot de cette robe verte. Elle est incroyable, cette robe verte qui prend parfois des reflets pourpres aussi. C'est assez extraordinaire quand même. Qui peut nous parler de cette robe là?
Bah, ça va être juste. Je ne la vois pas.
Je voulais qu'il y ait. En fait, j'avais envie que dans le spectacle, c'est une petite forme, ce spectacle, ils sont deux, c'est une petite salle, mais j'avais envie que ce soit quand même un peu spectaculaire, parce que Koukri Müller, c'était quelqu'un de spectaculaire. Et ça, on le sait, parce qu'il paraît qu'elle racontait ses histoires jusqu'à pas d'heure dans les soirées. Donc, elle se mettait quand même pas mal en scène. Donc, on avait envie de ce côté-là, spectaculaire, un peu paillette. Et donc, j'avais envie qu'elle ait une robe à paillettes étincelante. Et j'aime beaucoup le vert, et je trouve que ça va très bien à l'honneur. Donc, j'ai demandé une robe verte. On a trouvé cette robe, voilà.
Des difficile trovare la maniera di passare la serata con te. Supponi per esempio ce ne andassimo a nadare, lo sai bene come. Insieme finiremo per cercare un posto quieto per nasconderci. Inevitabilmente finirei con qualche stupido ti amo. Lo so già, finiresti con reagire perlomeno risentendoti.
Le spectacle est très largement musical, il y a de nombreux passages chantés, hein, comme celui-ci qui se passe à Positano en Italie. La musique est vraiment omniprésente grâce à Valérian Berbonnet, hein, qui chante, qui joue en live de la guitare, de l'harmonica, du ukulélé, du mélodica, des percussions, j'ai peut-être oublié un ou deux instruments au passage. La musique, Justine Edman, elle est là pour l'atmosphère ou elle est là pour soutenir le texte, pour faire progresser le road trip?
Un peu les deux, je crois. Enfin, nous, on avait très vite eu envie qu'il y ait de la musique avec Eleanor. Et c'est vrai qu'on l'entend quand on lit le texte. On entend la musique, on entend les voix. C'est très sonore, le texte de Cookie Muller. Il y a quelque chose vraiment imprégné d'émotions sonores parce qu'elle décrit beaucoup les bruits. Et donc, on s'est dit, ah tiens, ce serait beau d'avoir une musique très présente et aussi un partenaire musicien mais aussi acteur parce que
il y a une grande complicité entre eux, visiblement, ça se sent.
C'est magnifique et c'est vrai que Valérian c'est aussi un très très bon comédien au-delà d'être un très bon musicien et je trouve qu'il et parce qu'il fait plein de rôles dans le spectacle et on avait envie que ce soit voilà un spectacle qui se joue à deux avec que Cookie elle est toujours son partenaire parce qu'elle c'est quelqu'un qui avait 1000 duos. Cookie Muller, elle formait des duos avec beaucoup d'amis, d'ailleurs elle en parle, on s'y perd, elle a tellement d'amis qu'on s'y perd un peu. Et en fait, elle avait plein de meilleurs amis. Et donc, c'est important que cette deuxième présence, c'est quelque chose de très important pour raconter cette femme.
Alors, il y a deux personnes, effectivement, sur le plateau, mais il y a une foule de personnages.
Voilà,
vous
ça.
En incarnez tous les deux une sacrée liste, parfois d'ailleurs dans une même conversation. Exemple, ce dialogue entre Cookie et Taffy, qui est sa collègue Gogo Danseuse.
C'est quoi le pire truc qui puisse m'arriver si je mens? Chien. On verra bien. T'as qu'à poser la question à un toubib. Ah, appelle un docteur. Non, appelle l'hôpital. Non, mieux. Appelle un pédiatre. Dis-lui que ton fils vient juste d'avaler de la merde de chien. Tu verras bien ce qu'il te dit. Passe ce coup de fil. Ok, j'appelle. Allô? Oui, bonjour. Mon fils vient juste d'avaler des matières fécales canines par accident. Que va-t-il lui arriver? D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Chut. Et ensuite? Très bien. Je vous remercie. Au revoir. Alors? Aucun souci. Faut juste faire attention au verre. Au quoi? Au verre solitaire. T'es pas obligé de l'avaler, hein, de toute façon. Et toi, Cookie? T'es pas censé te faire niquer par une poule? Ah, niquer par une vraie poule? Ouais. Ouais, dans le scénario, il est indiqué que Cracker scoupe la tête d'un poulet et me baise avec le moignon. Les poules égorgent plutôt seulement. Même une fois qu'on leur a coupé la tête. Ah, mais c'est hyper dangereux les blessures d'oiseaux.
Voilà, c'est hyper dangereux, effectivement, ça. C'est très clair. Bon, on rit beaucoup, hein, c'est clair, d'un bout à l'autre du spectacle. Cette scène-là suscite évidemment beaucoup de réactions de la part du public, en tout cas, quand j'y étais. Mais on a quand même entendu dans l'extrait, Léonore Arnaud, votre personnage, donc Cookie Muller, évoquer son fils, Max. Quel regard est-ce que vous portez sur la mère qui était Cookie Muller?
Bah, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour cette histoire, cette relation qu'elle avait avec son fils, qu'elle a embarqué partout, dans ses road trips, dans ses aventures, qu'elle emmenait à l'école tous les matins, même si elle a aussi eu des phases plus sombres de sa vie, notamment avec la consommation de drogue. Et elle est partie trop tôt à cause de ça. Et... Oui, moi, j'ai une histoire familiale qui me fait beaucoup penser à cette histoire. Et du coup, c'est vrai que ça me touche parce que je pense qu'elle lui a légué beaucoup de folie, d'aventure et d'amour. Parce que c'est ça qui définissait Cookie Muller, je pense. C'est un amour inconditionnel pour la vie, les gens, les fleurs, les animaux. Et ça, je pense qu'elle l'a transmis autour d'elle. Et c'est pour ça qu'elle suscitait autant d'admiration et d'amour autour d'elle. Et je pense que son fils, aujourd'hui, et bien armée, même si elle doit profondément lui manquer.
Cookie Müller est morte du sida en 1989, hein, le jour de la chute du mur de Berlin. Il y a tout un passage dans le spectacle dans lequel vous parlez de ces années sida, du regard que la société portait à l'époque sur les malades et de l'incroyable saignée, hein, que la maladie a générée. D'ailleurs, dans le spectacle, elle meurt deux fois, si j'ose dire, Cookie Müller. C'est important, c'est un passage qui vous tenait à cœur, justement, de rappeler le regard que l'on portait sur le sida dans les années 70-80.
Alors, pour moi, oui, c'est important, parce que moi, j'étais pas adulte dans ces années-là, mais j'étais enfant, et ça m'a beaucoup marqué. Moi, mes parents sont artistes tous les deux, et ils ont perdu beaucoup d'amis. Et je les ai vus aller à beaucoup d'enterrements quand j'étais petite, et j'avais donc tout à fait conscience de ce que c'était que cette maladie et à quel point c'était désespérant parce qu'on pouvait rien faire. Donc moi j'ai été très baignée là-dedans petite, et j'ai toujours eu un très fort désir de. Je me suis toujours dit j'aimerais à travers un spectacle pouvoir en parler, parce que c'est vraiment des expériences. Oui, ces enterrements à répétition, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marquée enfant. Et donc, c'est vrai que je suis contente qu'on ait pu, à travers cette magnifique personnalité, évoquer ces années-là. Et comme ça, on s'en rappelle. Et c'est important de s'en rappeler, je crois. Et ouais, de se rappeler aussi tous ces artistes. Et c'est tellement beau quand elle dit que c'est des gens très libres qui ont été fauchés par la maladie, des gens très affirmés dans leur pensée, dans leur sexualité. Et je trouve que c'est important de rappeler ce moment qui a été quand même une hécatombe, quoi.
Voilà, mais ce que l'on retient, évidemment, comme le disait Léonore Arnaud, c'est cette pulsion de vie qui animait la carrière, la personnalité, aussi bien en public qu'en privé, d'ailleurs, de Cookie Müller. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Léonore Arnaud et Justine Henneman, traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir, d'après Cookie Müller, à découvrir donc jusqu'au 27 juillet, ici à Avignon, à 22h30, au Théâtre du Train Bleu. La relâche, c'est le jeudi.
Un blanc, un problème, un suprême programme, organe qui engraine, qui entraîne des bris de crâne, de vitrine, crime qui se trame, nitroglycérine. Premier album, je dégomme, sors des abîmes, je mène l'œdème et rétame des ridimes. J'étonne, on m'acclame, je donne mon mot d'ordre et mon modem. Kidam, des normes sur le macadam. Des tonnes d'ultimatums dans mes thèmes, hématomes dans mes tomes à l'antenne et cartonne le système. Fais qu'on je l'aime, pour victime des HLM, vu que Panam est tel Gotham, tartam et cocktail. Ma plume, c'est mon diplôme, elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Emblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis ma plume.
On vous en parle depuis le début de la semaine, de la diversité. La diversité est un des maîtres mots de ce festival d'Avignon. La diversité, eh bien, c'est aussi celle des formes littéraires mises en scène. Un texte n'a pas besoin d'être, à proprement parler, un texte de théâtre pour résonner sur les planches. Alors pourquoi pas de la poésie, de la chanson ou du slam ? Eh bien, il y a un peu de tout ça dans Les Voix du Verbe, le spectacle qu'est allé voir notre reporter Fanny Blechner.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés.
La poésie, c'est d'abord une histoire d'enfance. C'est ce que nous rappelle Damien Noury, figure du slam en France, qui revient ici sur son parcours. Pour lui, c'est un coup de foudre, mais pour beaucoup, cette forme littéraire peut impressionner.
J'ai observé, après toutes ces années, que beaucoup de gens étaient éloigné de la poésie, mais en même temps, quand on leur disait des poèmes, ça se passait plutôt bien. Alors je me suis dit, mais d'où vient ce paradoxe-là, d'éloignement et en même temps d'appétit pour le verbe quand on le rencontre.
Et sur scène, Damien Noury nous livre sa réflexion.
La poésie, ça a d'abord été cette histoire d'apprentissage par cœur, en vue du moment tant redouté de la fameuse récitation. Donc, un apprentissage directement relié à la peur, de se tromper devant les autres, de prendre une mauvaise note dans la foulée. Mais une chanson, ça s'écoute pour le plaisir. Et ça peut, comme ça, vous embarquer dans la langue d'un poète, sans même qu'on s'en aperçoive.
C'est donc par la musique que passent ici les mots.
Nous les cracheurs de son, jeteurs de bombes, pilleurs de blues. Nous les poètes parleurs, diseurs de mots, voyeurs de prose. Nous les frileurs de phrases qui mâchurent les nœuds des liens qui nous entravent.
sur scène aussi la musicienne Ninon Fachard.
C'était comment créer de la musicalité à travers ses textes et comment ils portent, quoi. Comment, quand on écrit, au départ, c'est une nécessité. Et finalement, la musique mène à écrire d'une manière assez poétique. Et donc, du coup, c'est comment tout ça se rencontre et que tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, la poésie a vraiment un sens dans la musicalité.
Plusieurs textes sont ainsi mis en musique sur des compositions de Julien Joly, dont La Marche à l'amour, un texte de Gaston Miron.
Tu as les yeux pères des champs de rosée. Tu as des yeux d'aventure et d'années-lumière. La douceur du fond des brises au mois de mai. Pour les accompagnements de ma vie en friche.
Et forcément, moi, la première fois que j'ai entendu ce texte-là, je me dis, mais c'est quoi ce monument, quoi ? Voilà, c'est une espèce de longue vague qui n'en finit plus de se déverser, hein, avec aussi cette particularité de, qu'a la langue française québécoise, de rester vraiment toujours très concrète, quelque part.
Gaston Miron, mais aussi André Chédid, Boris Vian ou Brigitte Fontaine sont ainsi convoqués.
C'est souvent un auteur ou une autrice, un regard qui me remet en écriture, en fait. Donc la plupart des poètes et des poétesses qui sont dans le spectacle, mais aussi les chanteurs, les chanteuses, les rappeuses, parce que pour moi, effectivement, le verbe poétique a beaucoup de, voilà, est une famille beaucoup plus large que simplement celle de la littérature poétique. Et souvent, voilà, tous ces gens-là, ces langues-là, sont des rencontres qui, pour moi, ont fait sens.
Et parmi ces rencontres, Léo Ferré et son fameux
« Poète ».
Le dernier tiers du spectacle remet la poésie comme un outil de conscience politique aussi. Ce texte de Ferré, évidemment, vient tout de suite résonner à cet endroit-là. Et en même temps, il y a une espèce d'énumération assez drôle de toutes les figures des poètes.
Objets de plaisir ou de curiosité, cris de joie, murmures d'amour, sanglots de douleur, discours politiques, chants de sirène ou spectacles de théâtre. La poésie peut être tout cela.
Poète, vos papiers.
Les voix du verbe, c'est à la chapelle des Antonins jusqu'au 30 juillet, relâche les 18 et 25 juillet. Ainsi se termine la saison de VMDN. Merci à Fanny Blechner, Victor Hull et Benjamin Availlou qui m'ont accompagné ici à Avignon. Merci à Baptiste Antoine, Pierre Plantier, Marjorie Bertin et Amélie Beaucourt qui sont hélas restés à Paris mais qui étaient un peu avec nous quand même. Où que vous soyez, vous qui nous écoutez, passez du bon temps en restant fidèles à RFI bien sûr. On se retrouve en direct le 29 août prochain. Après quelques semaines de congé pour une nouvelle saison, et vous m'en direz des nouvelles.